France Inter.
Vous goûtez comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Bonjour Paul Bocuse.
Vous êtes bien matinal ce matin. Pour moi, la cuisine, c'est la cuisine de terroir. La cuisine qui est faite avec les produits de sa région, avec les produits aussi de la saison.
À Collonges, au Mont-d'Or, près de Lyon, il y a deux siècles déjà que l'on sait que les Bocuse cuisinent. Pendant quatre générations, on ne l'a su qu'à Collonges. Depuis la cinquième, on se le dit dans le monde entier.
Sans crème, c'est pas possible de travailler. Donc, comme on dit à Lyon, tous nos plats, ils sont gourmands. Ils sont gourmands de crème, ils sont gourmands de beurre. Hein.
Du beurre, toujours du beurre et encore du beurre. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Fernand Point.
Les dorures de l'Elysée n'avaient jamais humé un tel parfum. Celui d'une petite croustade de truffe du terroir lyonnais, il est vrai qu'elle était préparée par Paul Bocuse.
Vous êtes le cuisinier le plus médiatisé de France. Comment est-ce que vous avez fait pour séduire les médias?
De France, je pense que vous êtes un petit peu légère. Moi, j'aurais dit du monde.
Pardon.
Que la fête commence.
Du Paul Bocuse dans le texte. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster Bocuse. Voilà un patronyme qui rayonne encore partout dans le monde. Une quinzaine de restaurants en France, aux États-Unis et au Japon. Un concours de cuisine, le Bocuse d'or, considéré comme l'un des plus prestigieux. Même la table gastronomique qui porte son nom à Collonges au Mont d'Or, à côté de Lyon, retrouve de très belles couleurs. Alors que Bocuse aurait eu 100 ans cette année, et oui, il est né le 11 février 1926, on explore aujourd'hui dans On va déguster le mythe bien vivant de ce chef hors norme, avec ses gloires, ses plats signatures, ses doutes, ses contradictions. Sa vie fut un roman, et ce roman, c'est Gauthier Battistella qui l'a écrit. Bonjour Gauthier.
Bonjour.
Bocuse, c'est le titre sobre, direct, frontal du récit épique que vous signez aux éditions Grasset, une biographie légèrement romancée de ce monstre sacré. Un livre, je dois le dire, unanimement salué par la critique. Je crois même pouvoir dire, tiens, je vois Jérôme Gagnès qui acquiesce, qu'il a été unanimement apprécié autour de ce plateau. J'ai pour ma part été littéralement aspiré par son souffle, sa plume incisive, sa précision. On précise aussi que vous avez travaillé 12 ans pour le Guide Michelin, hein, Gauthier Battistella.
Oui, c'est exact, ouais.
Avec nous également Olivier Couvin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef meilleur ouvrier de France et vous partagez avec Gilles Reynard, également MOF, les rênes du restaurant Paul Bocuse à Collonges au Mont d'Or. On est près de Lyon, je le disais. Vous travaillez au sein de la maison, Olivier, depuis 2001, c'est ça?
C'est ça.
Et vous avez donc côtoyé de près le grand Paul Bocuse. Vous allez nous raconter comment vous avez donné un nouveau souffle à cette maison plus que centenaire, tout en conservant la tradition Bocuse. C'est peut-être ça, la rupture dans la continuité. Vous avez participé par ailleurs à la rédaction d'un livre que je n'ai pas à mes côtés, mais un livre somme d'auberges et d'histoire, une anthologie de 480 pages aux éditions Bocuse. Avec nous également Jérôme Gagnès, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors Jérôme,
nous allons nous plonger avec gourmandise dans le troisième fleuve de Lyon.
Et on s'en réjouit. Ah, devinette, quel est le troisième fleuve de Lyon après la Saône-et-le-Rhône, c'est
exactement
ça?
Exactement.
Avec nous également notre mangeur masqué, écrivain, journaliste gastronomique qu'on est ravis de retrouver, François Simon, bonjour.
Bonjour à tous.
Au menu de votre...
Eh bien, on va se pencher sur ce que faisait la critique à l'époque de Paul Bocuse.
Très intéressant.
Elle ne dormait pas.
Oui, c'est ça. Précisons, François aussi, que vous connaissez bien le sujet quand même, hein, parce que vous avez co-signé en 2019 avec Patricia Ziza, Paul Bocuse Héritage, aux éditions Flammarion.
Exact.
Pour réagir et poser vos questions, envoyez-nous un email. On va déguster à radiofrance.com et puis réécouter, podcaster notre émission sur l'appli de Radio France. Retrouvez tous nos contenus, adresses, infos pratiques, recettes sur radiofrance.fr à la page. On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Chaque année, 40 000 commensaux du monde entier partent en pèlerinage à Collonges. Le restaurant Paul Bocuse est un sanctuaire, un rocher, un morceau de mémoire collective qui s'incarnerait dans le goût, le temps accordé au repas, à la fête, aux célébrations, à la famille. À l'auberge du pont de Collonges, on vient goûter une certaine idée de la France. Bocuse, ce n'était pas le monde, ni l'Europe, ni même le Michelin. C'était une rivière, une terre, un potager. Le gigot du dimanche, une cuisine de géographie, le cartilage de notre civilisation. N'en déplaise au maître, Il y a bien eu un après Bocuse, et ne serait-ce qu'en cuisine, à Collonges, trois meilleurs ouvriers de France, Christophe Muller, Gilles Reynard et Olivier Couvin, qui ont succédé à d'autres mofs, Christian Bouvarel et Roger Jaloux. Certes, on se dispute son nom, mais Bocuse se situe ailleurs, il agit hors du temps. La soupe VGE, le filet de sole aux nouilles Fernand Point, le rouget barbé en écailles de pommes de terre, le loup en croûte feuilletée, sauce choron. Avouez qu'ils chantent ces plats, pas besoin d'y goûter, c'est feuilleté, ça croustille. Ils disent quelque chose de la France éternelle, une France rebelle et bien élevée, Gary l'avait compris. Et puisqu'il faut être gaulien, saluons l'armée des ombres qui, pour la plupart, ne connaissent pas l'histoire de Polo, mais prolongent la mémoire de son geste.
Merci Gauthier Battistella pour votre lecture. C'est un extrait de votre livre Bocuse aux éditions Grasset. Alors à vous lire Gauthier Battistella. Paul Bocuse a largement dépassé le statut de grand chef. On peut même considérer que c'est un héros qui fait partie de notre roman national. On va d'ailleurs passer cette émission à essayer de comprendre les ressorts de cette icône. Mais selon vous, comment Paul Bocuse a pu en arriver là? C'est quoi le ressort?
Si je devais répondre simplement à cette question, je dirais qu'il a toujours eu un flair des circonstances. Et c'est ça qui est épatant chez lui, c'est son espèce d'instinct animal. Paul Bocuse aurait pu se perdre plusieurs fois au cours de sa vie. Il a été blessé à la guerre, il ressuscite, puis il s'en va faire le fou au moment de la libération à Paris. Il va siphonner les jerrycans d'essence pour le vendre au bordel, et puis ensuite se faire payer en nature. Enfin voilà, c'est un aventurier, ça aurait pu être un loubard. Et puis son père le ramène à la maison mère, à l'auberge, mais au-delà de ça, je crois qu'il y a quelque chose qui le ramène à son terroir, c'est peut-être la Saône. Il disait, la Saône, c'est le fleuve de ma vie, et une fois que je serai mort, j'aimerais qu'on jette mes cendres à l'intérieur. Et il avait déjà, tout enfant, cette conscience de l'endroit dont il venait. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va la faire très rapidement, mais ensuite on aura le temps de déployer les idées. Eh bien, une étoile, titre de mof, deuxième étoile, troisième étoile, et puis le Japon, et puis les États-Unis, et puis le petit Polo devient Monsieur Paul et finit par devenir l'immense, l'ogre Bocuse.
Alors c'est vrai que son surnom quand il était jeune, c'était Polo des bords de Saône. La Saône joue un rôle très important dans votre livre. C'est un fil conducteur, j'ai presque envie de dire que c'est un fleuve conducteur, hein, dans la biographie que vous consacrez à Paul Bocuse. La Saône coule au pied de la maison familiale. Je voudrais vous faire justement, Gauthier et Olivier, vous faire entendre une archive datant de 1987, une interview de Paul Bocuse au micro de FR3.
Vous êtes très régionaliste, donc?
Oui, parce que j'aime mon pays, je suis né dans ce pays, je dors toujours dans la chambre où je suis né, et je suis très, très collongeard, puisque les habitants de Collonges sont des collongeards, et avant tout, j'aime cette rivière, c'est-à-dire que quand je suis dans le monde, que je me mets dans un lit, la première question que je me pose, je me dis, du quel côté est la Saône? Donc, vous voyez, il n'y a rien à faire, je pense à mon pays. Si je suis au bord de la Saône, je passe un bon moment, parce que finalement, c'est toute mon enfance, mon père m'a appris tous les chants des oiseaux, et à reconnaître la nature. Pour moi, la nature, c'est mon plus grand passe-temps.
La Saône coule donc au pied de la maison familiale, je le disais, à Collonges au Mont-d'Or, cette petite ville qui est située à 9 km du centre de Lyon. La Saône, c'était un peu à la fois son terrain de jeu, il y pêche, il y braconne, c'était également son écosystème. Et j'ai l'impression que vous établissez une métaphore. Est-ce que la Saône ne serait pas, avec ses crues, ses débordements, une métaphore du caractère finalement débordant, tempétueux de Paul Bocuse?
Oui, je pense que la Saône, c'est Paul Bocuse, comme Madame Bovary, c'était Flaubert. Et il en parle juste avant, c'est que la Saône, elle lui apprend la méfiance, déjà. Mm-hmm. C'est-à-dire c'est un peu une mer, parce que la Saône est un fleuve dangereux. Et il y avait beaucoup de noyés à l'époque. D'ailleurs, il y a une photo assez connue de Paul Bocuse en scaphandre qui va repêcher les noyés. Son propre père, Georges, repêchait les
promeneurs
du dimanche.
Il y avait même des morts, hein, des noyés,
oui, absolument.
Des noyades.
Et donc, il lui apprend la méfiance et il grandit au bord de ce fleuve qui aussi va lui donner la vie, qui va le nourrir pendant les années d'occupation. On parlait du braconnage, et ils arrimaient donc leur périssoire. Leur périssoire, c'est un bateau à fond plein, un peu comme les gabarres. Ils arrimaient leur périssoir au sablier qui remontait le fleuve, et ensuite ils se lâchaient, et puis ils braconnaient et remplissaient de truites, de carpes et de brochets, je pense, leur barque. Et puis voilà, ça leur a permis de vivre, et il avait besoin de ça pour établir une colonne vertébrale dans sa vie, parce qu'il faut bien voir que Paul Bocuse, par exemple, a conquis le monde, mais il ne s'est jamais établi à Paris. Voilà un mystère intéressant, c'est que finalement il savait que son cœur restait à Collonges.
Et la Saône le nourrissait au sens propre, et nourrissait également le restaurant. D'ailleurs, votre roman commence par une magnifique scène de pêche à la grenouille, mais on sait aussi que les poissons du fleuve étaient très présents dans l'auberge familiale. C'était aussi, évidemment, un fleuve qui lui apportait des ressources. Olivier Couvin, rassurez-moi, la Saône coule toujours ou pas à Collonges au Mont-Blanc ?
Elle coule toujours et le restaurant est toujours bien présent.
Ah ! Et bien justement, il est plus que présent, puisque vous évoquez dans le texte que vous avez lu l'après Bocuse, et il est vrai que vous êtes un peu l'artisan de cet après Bocuse avec toute une équipe, hein. Attention.
Et 80 personnes.
80 personnes, et on parle quand même de gens et de cuisiniers très bien équipés, deux cols tricolores de meilleurs ouvriers de France au fourneau, oui. Vous et Gilles Reynard, je le disais, un pâtissier exceptionnel.
Benoît Charvet,
absolument.
Champion du monde, et nous a rejoint depuis un an Louis Morin, qui est meilleur ouvrier de France et directeur de salle aujourd'hui.
Ah oui, donc sacrée équipe. Et vous avez opéré tous ensemble une mue de cette maison historique, je le disais, rupture dans la continuité, évidemment les fondamentaux, enracinés, mais en même temps une évolution, une modernité. Notamment sur les plaques, vous avez entièrement retravaillé.
Oui, en fait, c'est pas un terrain compliqué. Bocuse, c'est la France. Bocuse, on a une gastronomie qui est déjà écrite avant nous. Nous, on est juste des passeurs de technicité, peut-être aujourd'hui, de produits qui se sont améliorés. Les fournisseurs, tout le monde est meilleur qu'avant, j'ai l'impression. Et nous, on est juste là pour transformer ces produits magnifiques que la France nous donne. On va pas être extrêmement local. Évidemment, on utilise des produits très locaux. Mm-hmm. Mais rien ne va m'empêcher d'aller découvrir un producteur, un fournisseur qui se trouve dans le nord de la France, ou dans le sud, ou dans l'ouest, parce qu'il mérite d'être mis en avant sur notre table. On parle vraiment d'un territoire, et je pense que c'est très important, et c'est peut-être pour ça que la maison brille encore aujourd'hui, et tout le monde vient chez nous déguster ça.
Vous avez, avec un certain succès, on peut le dire, hein, puisque le carnet de réservation est tout à fait complet.
2 mois et demi avant.
Il y a même eu beaucoup de rumeurs sur... le fait de récupérer la 3e étoile qui finira un jour par tomber, j'espère ne pas vous porter malheur en disant ça.
Je pense qu'aujourd'hui, on l'a perdu du temps de monsieur, quand monsieur Paul nous a quittés, il n'y a aucun problème là-dessus. Et du moment qu'on est dans ce milieu de gastronomie, mm-hmm. on en accepte le jeu. On est jugé par plein de guides et surtout par tous nos clients au quotidien. Et finalement, ces gens-là nous jugent au quotidien par leur fréquentation, leur réservation. Donc le Michelin, si un jour décide de nous remettre, ou le Goemio nous donne une meilleure note, ce sera très bien, mais on n'aura pas changé pour ça. On continue l'histoire, on s'améliore certainement, et je crois foncièrement qu'on s'améliore par l'envie de tout le monde. En sommellerie, on a juste une personne qui est magnifique, Maxime Valéry, qui vient de gagner le Master of Port, donc quelqu'un de très pointu. Et je vous dis, c'est une équipe. Une équipe est plus fort, ça nous rend plus fort d'être nombreux et d'aller dans la même direction.
Alors, tous les plats signatures de Paul Bocuse figurent sur la carte.
Oui.
Avec une certaine évolution dans la technique, dans la quantité de matière grasse, dans le dressage.
On aime toujours autant la crème et le
oui,
beurre.
Oui, c'est ça. Ah, tout va bien. C'est bon.
Sauf que la cuisine, on a tout changé sans rien changer. Aujourd'hui, voilà, les sauces, on joue avec les acidités, on joue avec évidemment des portions un peu plus acceptables, on n'est plus 25 ou 30 ans en arrière. Mm-hmm. Comme je dis, voilà, cette cuisine, elle reste très ancrée dans le territoire français, dans la tradition française, et pour autant, on surprend les gens avec des accords, des associations et surtout des cuissons maîtrisées. Monsieur Paul aimait à le dire, une juste cuisson, un bon assaisonnement. Et nous, on a une énorme plus-value, c'est le travail en salle. Beaucoup de découpes. Finalement, venir chez Bocuse, c'est peut-être simplement venir passer un moment hors du temps avec un spectacle continu. de votre arrivée à votre départ.
Et j'avoue y avoir fait il y a quelques temps une expérience tout à fait exceptionnelle. On va goûter dans un instant un plat étendard, un plat phare qui symbolise justement l'évolution de cette maison, oui. Les fameuses quenelles, pardon, les quenelles, comme on dit à Lyon. On va goûter ça dans un instant, mais là tout de suite, on grignote quoi ?
Juste un peu de foie gras.
Voilà, juste un peu de foie gras, comme non, ça, allons-y, boum boum.
Pourquoi le foie gras ? C'est une filière qui a subi une énorme crise, et voilà, c'est aussi aider les producteurs dans les moments les plus difficiles. Et le foie gras, ça parle quand même bien la France.
Mi-cuit.
Voilà. Cuit dans la graisse. Cuit dans la graisse.
Oh.
Voilà. Avec une petite brioche à côté. J'aime travailler la viennoiserie sur le foie gras. C'est quelque chose qui peut surprendre. On a eu servi des croissants. Le côté, en fait, beurre va développer l'aromatique. Et le savoir-faire de la viennoiserie est quand même bien ancré dans nos traditions. Donc, on s'amuse un peu à surprendre le client avec cette association.
Gauthier et Battistella, pour écrire ce roman qui est en fait plutôt une biographie un tout petit peu romancée, mais très fidèle à la réalité de la carrière et de la vie de Paul Bocuse, vous avez mené 4 ans d'enquête et vous avez rencontré beaucoup de personnes, dont les équipes qui sont actuellement en place au restaurant Paul Bocuse à Collonges-au-Mont-d'Or.
Oui, absolument. Alors, 4 ans d'enquête, je crois même beaucoup plus, hein, en fait, parce que même quand j'étais au Michelin, on en parlait tout le temps.
Et oui.
J'ai eu l'occasion de prendre des notes, j'ai rencontré beaucoup de chefs qui chacun me redonnaient des petites anecdotes, je pense, qui n'ont jamais été racontées ailleurs. Et je suis allé voir, en effet, les grands anciens, comme par exemple monsieur Pierre Orsi.
Qui est un grand chef lyonnais.
Mais qui est un grand chef lyonnais, et donc on est allé déjeuner, notamment à Collonges à ce moment-là, et je me rendais compte qu'à mesure que j'explorais les... On me racontait souvent les mêmes histoires au mot près. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est bizarre, j'ai l'impression que quelqu'un a écrit le roman dans mon dos avant moi. Et ce quelqu'un, c'était Monsieur Paul, évidemment, qui pensait déjà à l'avenir et qui savait ce qu'il fallait faire, voilà, postérité. Il vivait déjà avec sa statue, un petit peu comme Victor Hugo. Et donc l'idée du roman, c'était respecter absolument la geste bocusienne et me glisser dans les interstices, puisqu'il a eu quand même l'élégance de me laisser quelques zones d'ombre dans sa vie,
oui.
Notamment la rencontre avec Charles de Gaulle, notamment le moment où Romain Gary vient passer une semaine à Collonges. Et donc l'idée du livre, c'est de parler du mythe Paul Bocuse en ajoutant peut-être un regard de biais, voilà.
Vous écrivez ailleurs dans votre roman Paul Bocuse, braconnier de la gloire, le mot est du journaliste Robert Belleret, qui décèle en lui, je cite, une lucidité narquoise mêlée de jubilation revancharde. Je me fais gronder sur les réseaux sociaux, sur le mail dont va déguster, parce que j'ai dit que la Saône était un fleuve, mais c'est une rivière, paraît-il. Soyons précis sur la géographie.
Prend sa source dans les Vosges, non, je crois. Non, c'est pas ça.
Tout à fait. Ouais.
C'est Maria Pasquet qui réalise cette émission en direct avec Sofiane Aktib à la technique, Fabrice Rivaud pour la prépa et l'organisation de l'émission. Dans un instant, Bocuse en cuisine, son style, ses mentors, ses recettes signatures. Juste après, ce que tu me fais de Lynn. Vous êtes bien sur France Inter.
Déjà, je ne peux plus reculer. que tu me fais, tout ce que tu me fais. Ce que tu me fais, tout ce que tu me fais. Ce que tu me fais, tout ce que tu me fais. Ce que tu me fais, tout ce que tu me fais. Ce que tu me fais, tout ce que tu me fais. Ce que tu me fais, tout ce que tu me fais. Ce que tu me fais, tout ce que tu me fais. Ce que tu me fais, tout ce que tu me fais.
Bocuse ne meurt jamais, c'est le titre qu'on a choisi pour évoquer dans On va déguster la mythologie de ce grand chef disparu en 2018. Je vous propose, Gauthier Battistella, un flashback dans les années 60. Le tandem de journalistes gastronomiques composé de Henri Gault et Christian Millot débarque à Collonges au Mont d'Or. Au déjeuner, Paul Bocuse leur joue sa soupe d'écrevisses, le loup fernand point, des petits fromages, les œufs à la neige. Et au dîner, ils n'ont plus très faim, ils remettent quand même le couvert à Collonges au Mont d'Or. Et là, ils vont vivre une véritable épiphanie. Gauthier Battistella, vous nous lisez un nouvel extrait de votre biographie Bocuse aux éditions Grasset qui raconte un épisode, on va le voir, qui va changer le cours de l'histoire.
Cette fois, il leur sert une assiette de haricots verts al dente, assaisonnée d'huile d'olive et d'une tombée d'échalotes, suivie de petits rougets de roche cuits à l'arête. Et là, c'est la stupéfaction. Le monde cesse de tourner. Les fourchettes se figent. Les deux gars tombe en pâmoison. Ils viennent de découvrir ce qu'ils cherchaient, la clé qui ouvrirait le coffre d'un trésor qu'ils croyaient inaccessible. Des années plus tard, leurs plumes en tremblent encore. Les haricots verts croquants avaient une odeur de jardin, une saveur exceptionnelle. C'était grandiose dans l'extrême simplicité. La nouvelle cuisine existait et nous venions de la rencontrer. Bocuse s'étonne de cette ovation exagérée. Il a simplement reproduit une recette de sa grand-mère.
La nouvelle cuisine lancée par le duo Gault et Millot, après la dégustation de ce plat d'une simplicité extrême, à ne pas confondre d'ailleurs avec la salade de haricots verts, la salade gourmande de Michel Guérard, hein. Décidément le haricot vert al dente, oui. Absolument, avec des copeaux de foie gras, est au centre de la nouvelle cuisine. C'est vrai que ce plat, il a vraiment été érigé en plat totem, et ça a étonné Paul Bocuse.
C'est-à-dire que je pense que nos deux amis avaient décidé de s'inscrire dans la société. La nouvelle cuisine, elle naît quand ? Elle naît à un moment où la société française bascule dans la nouveauté. On a le nouveau roman, la nouvelle gauche, la nouvelle vague surtout. Et là, on a la nouvelle cuisine qui arrive finalement logiquement dans l'évolution de la gastronomie. C'est-à-dire qu'on a Escoffier qui va alléger Carême, et puis Fernand Point qui va alléger à son tour Escoffier. Et la nouvelle cuisine s'adapte à la nouvelle société et dont véritablement quand même le parangon deviendra Michel Guérard.
Bien sûr.
Avec sa cuisine minceur qui sera vendue à 1 million d'exemplaires. Bocuse, lui, quand il voit arriver cette nouvelle cuisine, il n'est pas du tout nouvelle cuisine. C'est-à-dire que c'était 200 grammes de crème par personne. Mais on parlait de son instinct. Il sait
De son flair des circonstances.
Il sait que s'il ne s'approprie pas cette nouvelle cuisine, elle risque de le dépasser et de le dévorer. Donc il se dit, la nouvelle cuisine, c'est moi, c'est les copains. Il fait entrer les trois gros chapelles, et puis ils vont partir à la conquête du monde. Et puis le jour où il n'en aura plus besoin, 15 ans plus tard, il dira, nouvelle cuisine, c'est rien dans l'assiette et tout sur l'addition.
C'est un braquage extraordinaire, quand même.
Hein. Extraordinaire.
Relation très ambivalente, en effet, ouais. Avec cette nouvelle cuisine. Ce que vous dites très justement, quant à la position de Paul Bocuse par rapport à ce mouvement culinaire, c'est que Paul Bocuse aime la crème et la cuisine mijotée, la nouvelle cuisine ne lui ressemble pas. Il a toujours navigué entre deux eaux, flattant d'un côté la soif de nouveauté d'une société en plein bouleversement et la nécessité de sauvegarder le patrimoine culinaire français. Mais c'est vrai qu'il n'a pas été tendre avec cette nouvelle cuisine. Il disait même des mini-portions dans des maxi-assiettes. Nous ne sommes pas là pour être le showroom des porcelainiers. La nouvelle cuisine, c'était pas tout à fait sa tasse de thé quand même pour continuer à parler de porcelaine.
Oui, il y a toujours cette ambivalence chez Paul Bocuse, c'est que c'est un conservateur moderne. Même quand on regarde un petit peu la cuisine qu'il imagine, c'est sa cuisine et ce n'est pas sa cuisine, en fait. Pour peu qu'on connaisse un peu, c'est la cuisine de la mère Brasier. Et la mère Brasier s'est inspirée, par exemple, pour la poulard demi-deuil de la mère Filloux.
Oui.
Et quand Goemio arrive et qu'il dise « La nouvelle cuisine, c'est quoi ? Tu seras inventif ou tu ne seras pas ?» Et Paul Bocuse, c'est tout le contraire. Pour lui, la grande cuisine, c'est refaire chaque jour un même plat encore mieux.
Il disait de Fernand Poing, son mentor, hein, on parle du grand chef de la pyramide à Vienne, je ne limite pas, je fais pareil.
Voilà. Et d'ailleurs, juste une mini parenthèse, c'est que je me suis longtemps demandé, je ne sais pas si on aura le temps de parler du Japon, mais ce que les Japonais trouvaient en Paul Bocuse, parce que quand on voit le Gaulois exubérant et l'homme japonais est plutôt dans le retrait, et en fait ce qui les liait, c'était finalement une même conception du temps et de la patience.
Et de l'artisanat.
C'est-à-dire que quand on va manger dans un restaurant d'anguilles à Tokyo, le chef fait de l'unagi, le père du chef en faisait, et la maison ne fait que ça. Et Paul Bocuse, finalement, il fait la même chose.
Absolument. Mais d'ailleurs, vous dites dans votre livre que Paul Bocuse n'a inventé dans sa carrière que deux plats. Le loup en croûte et la soupe VGE, dont on va parler dans un instant, donc on la divulgage pas trop. Mais c'est vrai que finalement, c'était davantage un artisan qui reproduisait le geste. Les gestes qu'il avait appris chez Fernand Poing, chez la mère Brasier évidemment, 2x3 étoiles aux 12 rue Royale à Lyon et au col de la Lueur.
Oui, absolument. D'ailleurs, je me suis posé une question. Paul Bocuse, à partir de, je pense, quand il a 40 ans, il passe quasiment 50% de son temps à l'étranger. Tout en laissant croire que, puisqu'il a cette phrase, il dit « Mais qu'est-ce qui cuisine, monsieur Paul, quand vous n'êtes pas là ?» Il dit « Ben, les mêmes que ceux que quand je suis là. » Je me suis posé la question.
Génial. Cette réponse est extraordinaire.
Il avait le sens de la formule. Est-ce que sa cuisine aurait été différente s'il avait été là en cuisine en permanence? Est-ce qu'elle aurait évolué? Voilà, c'est une question que je pose. Je n'ai pas de réponse là-dessus.
Et regardez, Gauthier Battistella, ce qui nous est arrivé sous les micros. Ça, c'est la prouesse d'Olivier Couvin sur une plaque de cuisson avec deux casseroles de réussir à nous faire. On peut raisonnablement les appeler quenelles, même si elles n'ont pas tout à fait la physionomie certaines quenelles des bouchons lyonnais.
J'en ai déjà mangé une.
Ah! Alors, verdict ?
Ah bah, il y a une surprise dedans.
Ah, ça, c'est merveilleux. Parce que, Olivier Couvin, déjà, première question, est-ce que c'est quenelle, entièrement revisitée ?
Oui.
Que n'a pas goûté Paul Bocuse ?
Non.
Est-ce qu'elles sont nouvelles cuisines ?
Elles sont réinterprétations de la cuisine ancienne.
Ah.
Moi, je suis lyonnais. Il était impensable pour moi d'avoir ce restaurant sans quenelle sur table. On l'a évidemment servi beaucoup plus traditionnel. Mais je voulais que la quenelle de chez Monsieur Paul, on la mange et on s'en souvienne toute sa vie avec beaucoup d'humilité. Mais on a mis beaucoup de travail dans ce produit-là, qui peut paraître simple finalement. Mais on a joué sur beaucoup de textures, sur des acidités, des taillages différents. Et c'est un plat aujourd'hui qu'on a même du mal à enlever de la carte. Les
Quelle
gens
légèreté.
Viennent manger chez nous pour ce plat aussi.
Il y a presque une texture mousseuse et en effet, elle est archi texturé d'une manière particulière, puisqu'il y a une espèce d'insert.
Oui.
Il y a un cœur que l'on découvre, évidemment, quand on coupe la quenelle.
Donc ça, c'est un peu l'image de ce qui se passe aujourd'hui à Collonges. On est évidemment sur des marqueurs très, très anciens, cuisine française, mais qu'on réinterprète avec les techniques d'aujourd'hui et le savoir-faire d'aujourd'hui. Ce qui est important aussi pour nos équipes, parce qu'on est là aussi pour les emmener vers le haut et leur transmettre le maximum de choses.
Parce qu'alors, on a un menu sous les yeux qui date d'il y a plusieurs décennies. Il y avait bel et bien des quenelles au menu du restaurant Paul Bocuse à Collonges au Mont-d'Or, mais c'était des quenelles classiques, bien boursouflées, à base de panade, de pâte à choux, et une sauce nantua aux écrevisses.
Exactement. Mais Bocuse, quand il était là, on disait tout à l'heure d'un charisme, d'une présence. Déjà, les clients, quand ils voyaient Monsieur Paul, ils étaient déjà heureux.
Et oui, puisqu'en plus, il faisait toujours son tour de salle.
Il dégageait quelque chose d'assez formidable. Et quand il nous a quittés, il a fallu évidemment se remettre en question, prendre le chemin, savoir décider où on allait aller. Et finalement, on l'a trouvé très simplement. Monsieur Paul a fait la cuisine d'un pays, jamais forcément sa propre cuisine. Et on continue la même chose.
Il aurait aimé, Monsieur Paul, ces quenelles ?
Je pense.
Ah.
Il aurait un peu grimacé au début, qu'est-ce que vous m'avez fait, mais en l'ayant goûté, et surtout en ayant eu le retour client, il aurait dit, finalement, c'est bien.
Il paraît qu'il vous a dit un jour, Olivier Couvin, vous ferez ce que vous voudrez après moi.
Exactement. Quand on essayait de faire 2-3 changements sur la carte, et il avait un petit coup de colère et il disait, vous touchez rien, vous ferez ce que vous voulez quand je serai plus là. Donc on l'a pris au mot finalement, mais toujours avec un immense respect et beaucoup d'envie de projeter cette maison sur les 100 prochaines années.
Ah. Gauthier et Battistella, on passe de la salade de haricots verts de Paul Bocuse du milieu des années 60 à 1975, ma date de naissance. Non, je plaisante. C'est bien ma date de naissance, mais c'est surtout l'une des dates marquées d'une croix blanche dans la carrière de Paul Bocuse, la remise de sa Légion d'honneur qui va lui donner l'occasion d'organiser un déjeuner à l'Élysée. Écoutez cette archive, il est interviewé peu de temps avant par TF1.
Est-ce que vous avez le trac à la perspective d'aller faire la cuisine à l'Élysée ?
Non, parce que les cuisines sont bien installées et il y a un chef merveilleux qui s'appelle Marcel Le Cerveau qui est là depuis 17 ans et il va se mettre à table avec nous. Donc on va faire un repas très simple. Et puis pourquoi avoir le trac ? On va faire ce qu'on fait tous les jours.
Alors quelle est la cuisine de Paul Bocuse ?
Eh bien la cuisine de Paul Bocuse, c'est la cuisine du marché. C'est peut-être un merlan le matin pourvu qu'il soit très frais. Avec une pomme de terre, celle vient d'être amassée. Ça c'est de la grande cuisine ou de la bonne cuisine comme vous voudrez.
Paul Bocuse, un cuisinier qui reçoit la Légion d'honneur, ça vous surprend ?
Oui, un peu, mais enfin, je crois que c'est surtout toute la cuisine française et les meilleurs ouvriers de France qui sont un peu représentés en moi-même.
J'aime bien, il porte un élan collectif, Paul Bocuse. Vous dites d'ailleurs, il y a une formule très juste pour définir le tempérament de Paul Bocuse dans votre livre, Gauthier Battistella, il avait la mégalomanie partageuse.
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, il vient à l'Élysée avec tous ses copains, toujours les mêmes, tous la bande de la Nouvelle Cuisine, les frères Troisgros, Chapelle, Guérard. En fait, tout part d'une blague, c'est-à-dire qu'il y a...
Mais oui, ça part d'un canular.
Ça part d'un canular. Un copain lui dit, ah tiens, le président veut te donner la Légion d'honneur. Il dit, bah, allons-y.
Et il paraît qu'il reçoit même une fausse lettre.
Il reçoit
avec une fausse signature de VGE.
Et VGE en entend parler, il se dit, tant qu'à faire, allons-y. Et alors ce qu'il y a de notable, c'est qu'il ne reçoit pas la Légion d'honneur pour ses faits gastronomiques, mais pour ses faits de guerre. De la même façon qu'Escoffier l'a fait. Donc, il arrive, alors je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il arrive à l'Élysée, et il y a une horde de micros, il se dit, ah, tout ça pour moi, c'est magnifique. Mais en fait, les journalistes étaient venus là, parce que c'était la première causerie au coin du feu de Valéry Giscard d'Estaing ce jour-là. Donc, Bocuse rentre, et c'est là où il va cuisiner la première fois la soupe aux truffes Élysée, ce qu'il appelle Élysée, qui est un plat qui lui a donné du fil à retordre, mais qui est un petit peu la rencontre entre un Souvarov russe. Le Souvarov, ce sont ces gibiers cuits sous une cocotte luttée. Et un jour, il était chez son producteur de truffes qui lui râpait de la truffe dans le potage. Et donc, il crée cette soupe et il a, avec la cocotte qui déborde dans une...
Comment est-ce qu'on appelle
ça ? Oui.
Elle est luttée.
Elle est luttée, voilà. Il dit à Giscard, monsieur... C'est maintenant qu'on doit casser la croûte.
Voilà,
président, on casse la croûte.
Avec voilà. Ce sens de la formule extraordinaire. Et pas qu'il y a aussi une petite influence Héberlin. Là, on parle de Paul Héberlin, hein, du grand Absolument. Copain de Paul Bocuse. On salue d'ailleurs Marc Héberlin, qui est toujours au fourneau de ce restaurant alsacien.
Il avait
goûté quelques temps avant.
Il avait fait une truffe toute simple sous cocotte luttée, parce que Paul Héberlin avait été formé par le chef Weber, qui avait été cuisinier à la cour des tsars de Russie. Voilà, donc il a allié tout ça, et c'est ça aussi quand même le génie de Paul Bocuse, savoir inventer à partir de quelque chose qui existait déjà.
Rassurez-moi, Olivier Couvin, elle est toujours là, cette soupe Élysée ou soupe VGE, puisqu'elle a été ainsi rebaptisée, en souvenir de Valéry Giscard d'Estaing. Pas toutes les saisons, je crois.
Non.
Saison
de la truffe,
c'est bien ça.
Beaucoup de saisonnalité, on l'a eu servi toute l'année,
et oui.
Du temps de Monsieur Paul, et chemin important pris par le collectif de Collonges. Ce plat-là, mythique, qui a fait aussi la renommée de cette maison, devait être servi à son apogée, c'est-à-dire à la saison de la truffe.
Donc, il y a toujours cette soupière individuelle ?
Bien sûr.
Avec un bouillon de bœuf, brunoise de légumes, dés de foie gras,
oui.
Blanc de volaille cuit ?
Alors on est sur de la viande de bœuf, mais depuis très longtemps.
D'accord.
Moi, j'ai 25 ans de maison.
C'était viande de bœuf. Oui. Truffe ? Évidemment, et le tout recouvert d'une espèce de dôme feuilleté pour casser la croûte.
Bien sûr.
Mais là, pour le coup, la recette, quelle marge de manœuvre vous avez eue pour la faire évoluer ?
On a changé beaucoup de choses, on a retravaillé les consommés avec des doubles clarifications, on les a épaissis un petit peu, comme le faisaient les anciens, avec du tapioca, pour lier les consommés, pour avoir ce côté nappant en bouche. Le foie gras, on est parti sur des foie gras, du foie gras poêlé, qu'on caramélise et qui va avoir plus de tenue à l'intérieur de la soupe et pas se désagréger. Et puis après, chaque détail est important. En fait, c'est l'accumulation dans ce plat de détails qui va faire l'excellence du moment.
Et on parle quand même, là pour le coup, autant il a inventé que deux plats dans sa vie, c'est ce que vous dites Guillaume Battistella, mais là on parle d'un plat signature qui est peut-être bien l'un des plats français les plus connus dans le monde, imité partout, au Japon, aux États-Unis. C'est prodigieux l'impact de ce plat signature.
C'est prodigieux et d'ailleurs c'est ce qu'il a fait connaître dans le monde entier. Un jour il se balade dans les rues de New York, un Américain le reconnaît, et il prend une photo avec lui et il lui dit « J'aimerais bien vous envoyer la photo en France, comme ça vous me la dédicacez, vous me la renvoyez. » Et Bocuse lui dit « Envoyez Bocuse France, ça arrivera. » Et la lettre arrive. Voilà.
Génial. Comment rendre hommage à Paul Bocuse? On en parle avec Jérôme Gagnez.
On va déguster sur France Inter.
Oh, ça c'est net et précis.
Ça c'est un hommage à Paul Bocuse. On verse dans vos verres à l'instant...
Le troisième fleuve.
Le troisième
fleuve. Même si on a compris que la Saône n'est pas un fleuve, puisque un fleuve se jette dans la mer.
Voilà, puisque elle se jette dans un fleuve, en l'espèce le Rhône. Mais il y a un dicton à Lyon qui dit « Lyon a trois fleuves ». Le Rhône, la Saône et le Beaujolais.
Ah,
donc, évidemment.
Qui coule dans nos verres.
Il n'était pas pensable de rendre hommage à Paul Bocuse et à cette région lyonnaise sans faire un détour par le Beaujolais. Et là, en l'occurrence, on fait un détour par le domaine de la grosse pierre Pauline Passot.
Mais oui !
C'est un domaine que j'ai découvert quand Pauline Passot a repris ce domaine de ses parents en 2018. J'étais allé lui rendre visite sur les conseils très avisés à l'époque de Paul-Henri Tillardon, qui m'avait conseillé d'aller la voir, que Paul-Henri Tillardon, que je salue également. Et j'ai bien fait d'aller la voir parce que j'avais déjà beaucoup aimé ses vins. Et puis je la suivais un petit peu de loin en loin, je goûtais ses vins une fois de temps en temps. Il n'y a pas très longtemps, je les ai regoutés. Mmh. Et je suis tombé vraiment en amour de ses vins. Ce sont des très beaux chiroubles. Alors, chiroubles, on va replacer chiroubles. Chiroubles, c'est une appellation, c'est donc un des crus du Beaujolais.
Vous n'allez pas tous nous les faire réciter.
Ça, c'est moche, ça.
On n'a pas le temps.
Ça, c'est
non, on n'a pas le temps.
Ça,
mais
c'est pas
sinon...
bien ce que vous faites, monsieur.
Il y en a combien?
J'ai votre adresse, hein, je vous rappelle quand même.
Il y en a combien?
Il y en a 10.
Bon, allons-y.
Bon, alors, il y a Fleury, Moulin à Vent, Régnier, Chénas, Juliénas, Saint-Amour, Chiroubles, Brouilly, Côte de Brouilly et Morgon.
Alors là, bravo.
Et franchement, c'était de l'impro total. Il récite les 10 comme ça, bravo.
C'est, pour une fois que je m'en sors. Donc,
je vous avais déjà piégé, vous vous souvenez?
Oui, je
vous avais oublié deux.
Oui, exactement. Donc là, c'est Chiroubles. Chiroubles, c'est un cru qui est un petit peu à part dans la symphonie des 10 crus du Beaujolais parce que c'est un cru qui est situé. Un des crus les plus en altitude, sinon le plus en altitude, entre 300 et 600 mètres d'altitude, donc c'est haut quand même. Et c'est ce qui en fait la particularité, avec donc un sol granitique dégradé comme beaucoup de fois dans le Beaujolais, donc ça veut dire que ça ressemble un petit peu à du sable, hein, si on s'y promène, et des pentes qui sont très escarpées. Bref, un cru qui est difficile à travailler. Pauline travaille ça, évidemment, en partie quand c'est mécanisable avec un petit tracteur, mais quand c'est pas mécanisable, c'est à la main que ça se fait. Hein, donc c'est quand même un gros boulot. Et on parle là de la cuvée La Grosse Pierre. C'est en fait 4 hectares et demi qui sont autour du domaine, sur 9 hectares. Et elle produit ce chirouble qui est un archétype de chirouble. C'est du chirouble, avec toute l'élégance, la fraîcheur, le caractère... délicatement goulayant de ce vin.
Et oui.
Goulayant est un adjectif que j'aime particulièrement lorsqu'il s'agit de Beaujolais, parce que cette région tout à fait extraordinaire a cette capacité à faire la synthèse entre un fruit très en avant, une délicatesse de texture avec des vins qui sont fins, et en même temps du fond et de la profondeur. Et c'est exactement ce qu'on a dans ce vin. C'est un 2024. Mmh. C'est un très très joli vin qui est un espèce de couteau suisse, parce qu'on peut le boire maintenant, on peut l'attendre encore 5 ans, on peut le boire sur une viande, on pourra le boire sur un poisson, parce que la délicatesse des tanins et donc la finesse de texture en bouche permet d'aller vers des chairs beaucoup plus délicates comme le poisson. Et c'est un vin donc qui est aux alentours de 12-14 euros, vous regarderez sur la page de l'émission...
Oui, donc une quille très accessible.
C'est accessible. C'est un vignoble qui est admirablement travaillé. Et Pauline Passot est une jeune vigneronne qui a beaucoup de talent. Et je conseille donc à nos auditeurs de la suivre de très prêt.
D'ailleurs, le Beaujolais est dignement représenté sur la carte des vins à Collonges au Mont d'Or.
Le Beaujolais fait partie de Collonges.
Évidemment.
Monsieur Paul l'a emmené dans le monde entier, dans chacun de ses voyages.
Avec Jean-Louis Dubœuf.
Voilà, exactement.
Pour le meilleur et pour le pire. Non, je dis pour le meilleur et pour le pire. Il y a eu l'école, effectivement, du Beaujolais nouveau qui a connu ensuite une évolution quelques travers.
Oui, ça a été un retour de bâton. Mais le Beaujolais nouveau qui a créé plus ou moins Georges Dubœuf, Georges Dubœuf était un peu à l'origine de ça, de cette célébration mondiale, ça a atteint des sommets de popularité qui sont inégalés dans le monde. Il n'y a pas d'autre vin qui a eu autant de succès comme ça le troisième jeudi de novembre. C'est une folie. Donc voilà, Georges Dubœuf a au moins cet héritage-là, ça, incontestablement.
Absolument. Dans un instant, continuez à évoquer cette figure tutélaire de Paul Bocuse, son mythe qui reste bien vivant. Et puis bien sûr, le ding de notre ami François Simon qui a bien connu l'univers de Paul Bocuse.
This is me that you love me, something you said oh a million times. I pretend that I don't care and act like I didn't hear. I even fight back a smile, and this is why when you tell me that you love me, these three words make me want to cry. Imagine what your kisses do when mixed with an I love you. You make me feel like I can only die. You make me hot in December, even my name can't remember. But whenever we're together, babe, what the, I'm scared it's you.
This is why de Alani, le mythe de Paul Bocuse au menu de notre émission du jour avec nos invités Gauthier Battistella et Olivier Couvin, chef avec Gilles Reynard du restaurant Bocuse. Mais la parole est à notre ami François Simon.
On va déguster sur France Inter.
Cher François Simon, depuis le début de l'émission, je vous observe. Et j'ai l'impression que le livre de Gauthier Battistella vous parle beaucoup.
C'est même plus qu'une impression, cher François Régis.
Mais tout de même, vous qui n'êtes quand même jamais censé rencontrer les chefs,
ouais, c'est vrai.
Vous le connaissiez donc.
Eh oui, Paul Bocuse était pour moi le représentant parfait de la gastronomie, l'image d'une époque rouée, goguenarde, profondément amicale, ça c'est important, gourmande, charnelle même, truculente. Elle m'a permis de découvrir, moi qui étais un gentil péquenaud, que cet univers déjà survalorisé, non sans raison, car il savait aussi être scélérat, truqueur, joliment cynique. Grâce à Monsieur Paul, j'ai gagné un temps fou.
Bon, François, vous allez quand même pas nous faire le coup de la nostalgie, pas vous.
Non, non, non. Sincèrement, cela ne m'ennuie nullement. C'est toujours amusant de se souvenir d'une époque, car on la magnifie, et c'est pas plus mal. On aura mangé des plats formidables, bu des vins d'anthologie, connu des frissons indicibles. La mémoire, c'est un peu comme les bonnes conserves, en fait. Si elles sont bien serties, bien assaisonnées, elles traversent le temps. Finalement, la nostalgie, c'est une clé pour mieux comprendre le présent.
Mais François, à cette époque, la critique était quand même un peu plus musclée qu'aujourd'hui.
Ah oui, ça y allait. La syntaxe bougeait, les javelots fusaient, la purée n'était pas encore devenue l'écrasée de pommes de terre. La critique gastronomique était même un art littéraire. Elle produisait non seulement des petites merveilles de vacherie, l'époque en était prodigue, elle avait le cuir épais et aujourd'hui un mot de traviole, hein, les fleuves, etc. Et vous voilà lyophilisé, cher François Régis. Mais surtout, elle a permis d'élever le niveau de la gastronomie. Les chefs n'étaient jamais en paix. Alors qu'aujourd'hui, personne ne les chatouille. Ils peuvent même passer leur après-midi à acheter des lunettes de soleil. Ils savaient, à cette époque, s'ils s'embarquaient dans une sole au chocolat, boum, la semaine suivante, le bonhomme recevait un nuage de fléchettes.
Mais aujourd'hui, alors, selon vous, ça ronronne.
Ouais, disons que ça roupille. Les influenceurs connaissent leur âge de pierre, mais en quelques mois, en arrêtant de courir après les billets de 20 balles, ils devraient passer à l'étape suivante. Affiner leur vocabulaire, diminuer le miel de la complaisance et de la servitude pour découvrir des notes acides, amères, poivrées. Ça va prendre du temps, mais ça va venir.
Ah bon, vous pensez ? Vous êtes certain ?
Bah, j'espère en tout cas. Regardez par exemple dans l'univers de la mode. On était habitué à une littérature d'accompagnement, des textes bien tissés. Maintenant, les nouveaux influenceurs osent la critique. Ils s'amusent d'un détail, prennent du recul. Surtout, ils apprennent l'expertise. Déjà, ils adorent l'univers des marques. Ça, c'est important. Ils ont surtout un besoin d'être validés par le métier. Alors, ils bossent. Ils se cultivent, ils apprennent à connaître les marques, leur langage. Ils font ce qu'on appelle des watch parties, c'est-à-dire des réunions spectaculaires où l'on regarde et commente un défilé. Alors que dans la food, comme on dit aujourd'hui, il n'y a pas cette validation. Il n'y a même plus de pilotes dans l'avion, le Michelin rayonne, c'est tout dire. Le fooding s'est endormi. Tout le monde peut ouvrir un restaurant, tout le monde peut en parler. Même n'importe comment, il n'y aura personne pour contredire. Il n'y a pas d'étape où alors elle est ténue pour finalement finir où ça ? À la grand-messe Michelin à Monte-Carlo, le comble de la marche arrière. À propos, François Régis, vous en étiez ?
Non, non.
Ah bon ?
Non, non, j'ai jamais fait les raouts du Michelin. Mais vous savez, François, on est d'accord là-dessus. On adore détester le guide Michelin.
C'est vrai, ça fait toujours du bien.
Ouais. Mais c'est vrai, il a tellement raison, François Simon, Paul Bocuse est d'une époque où les critiques gastronomiques avaient l'écrou bien aiguisé. Il avait d'ailleurs des relations assez tumultueuses avec Goemio. Cette anecdote truculente que vous racontez, Goemio ne sont pas invités à
ses 50 ans ou à...
Non, ne sont pas invités à l'Élysée en 1975 remise de la Légion d'honneur par Valéry Giscard d'Estaing. Ils sont furibards. Paul leur enverra à chacun une médaille en chocolat achetée dans le supermarché Continent. C'est vrai ça ?
Ouais, c'est extraordinaire. Mais ils appelaient les gros énigos et ils disaient, de toute façon, Mio ne sait pas manger, donc il vient avec son chien, et quand le chien remue la queue, c'est que c'est bon. Il disait aussi à propos de Goemio, l'oseille, c'est pas que pour le saumon. Voilà. Et eux se vengent. En 1989, ils lui décernent le prix du chef du siècle.
Excellent.
Mais il n'est pas seul. Et il croit qu'il est seul.
Il y a Joël Robuchon et Freddy Girardet, ce grand chef de la nouvelle cuisine en Suisse. Et que répond Paul Bocuse ? Comment il réagit ?
Et il réagit, il dit je crois qu'il jette. Je croyais que j'étais seul. Qu'il y en a d'autres que moi.
Voilà, il y en a deux autres.
Qu'il y en a d'autres que moi.
Incroyable. Voilà tout le tempérament de Paul Bocuse.
Il y avait la villa de Saint-Tropez aussi. Quand Christian Millau a eu le malheur de se faire démolir sa villa à Saint-Tropez.
Oui.
Paul Bocuse s'est proposé en envoyant une sorte d'invitation, une entreprise de démolition. Il se présentait entreprise Paul Bocuse, démolition sur commande. Avec des tracteurs.
C'est vrai que c'était plus
drôle qu'aujourd'hui. Paul Bocuse avait l'art du canular, de la blague. C'était spectaculaire d'ailleurs, toute sa vie.
Oui, et même de la blague méchante, parfois. Oui. Il y a cette anecdote qui est assez connue où il veut s'excuser d'avoir fait une mauvaise blague à un notable de Lyon et il lui envoie un très belle, de très belles plantes. Et donc, la plante entre dans l'appartement, c'est un peu un cheval de Troie. Et puis, au bout de 2-3 semaines, ça commence à sentir mauvais. Donc, il commence à enlever les lattes du plancher, etc. Mais d'où ça vient ? Et en fait, Bocuse avait planqué des tripes de lièvre sous la terre qui ont commencé à pourrir.
Ça klaxonne en plus.
Ouais, c'est
incroyable. Parlons de Paul Bocuse et tout ce qu'il a fait pour le statut du cuisinier. Parce que si vous dites qu'il n'a inventé que deux plats dans sa vie, en revanche, il a beaucoup fait pour la profession de cuisinier. Vous écrivez même, il a moins apporté à la cuisine qu'au cuisinier. Et il l'explique très bien dans cette interview de 1987. Écoutez.
Est-ce que c'est vous le meilleur cuisinier du monde ?
Non, c'est pas moi, il y en a beaucoup d'autres. Mais vous savez, j'ai essayé de faire sortir les cuisiniers de leur cuisine, et ça, j'y tiens beaucoup. Parce qu'avant, le cuisinier était un domestique, était employé par un maître d'hôtel ou par un financier, et rarement propriétaire de son affaire. Et aujourd'hui, sur les 19 restaurants 3 étoiles du guide Michelin, je pense qu'il doit y en avoir 18 qui sont propriétaires de leur restaurant et chefs de cuisine. Aujourd'hui, la cuisine appartient aux cuisiniers. Pour moi, c'était ça mon plus grand succès de ma vie.
Mais ça d'ailleurs, Gauthier Battistella, c'est aussi une évolution de la nouvelle cuisine. La nouvelle cuisine, ce n'est pas qu'une créativité gastronomique au fourneau. C'est aussi, encore une fois, le statut, l'image, la valeur du cuisinier qui évolue, notamment avec ses différents accessoires.
Oui, alors moi, je pense que Bocuse a amorcé cette révolution bien avant. Il faut imaginer qu'il est né en 1926. Mmh. Il a vu son père, littéralement, se tuer à la tâche. Son père buvait de l'alcool aussi. L'espérance de vie des cuisiniers dans les années 50 excédait rarement 50 ans, 50, 60 ans. Fernand Point meurt à 57 ans.
Et oui.
Et il les voit boire les vins de sauce à la cave. Et il dit, mais pourquoi est-ce qu'on connaît le nom du voiturier, on ne connaît pas le nom du chef ? Et donc, Ça va totalement le porter, ça. C'est comme la reconquête de son nom, on n'en a pas parlé, mais très longtemps, il n'a pas pu travailler sous son propre nom. Et c'est pour ça qu'on voit les initiales Bocuse en énorme, parce qu'enfin, il rétablit quelque chose de logique, finalement. Les Bocuse ont toujours été là. Et donc, ce qu'il va, en gros, un petit peu pimper le cuisinier actuel, c'est-à-dire qu'il va créer la veste, il va imposer la veste Bragard, il va imposer la toque. Alors lui, il s'était fait faire une toque quand même de 15 cm supérieure à toutes les autres pour qu'il continue à exister. Mais
il fallait toujours qu'il soit un peu au-dessus des autres.
Voilà,
même, hein.
Mais c'est normal.
D'ailleurs, il paraît, petite parenthèse, que sur les photos, il ne se mettait jamais au milieu de la photo.
Jamais au milieu pour ne pas être sur la pliure du magazine, ouais. Ouais, mais, et c'est vrai, hein.
Il pensait à tout.
Regardez toutes les photos.
C'est vrai.
Ouais.
Oui.
Pardon, dire, non, non, il porte la France aussi avec lui. Les concours du MOF, existaient depuis 1921, et c'est lui qui décide d'ajouter le col bleu-blanc-rouge. Mm-hmm. Et donc, le cuisinier moderne, c'est lui.
Vous avez apprécié une anecdote, Jérôme Gagnès.
Oui, il y a une anecdote merveilleuse, d'ailleurs, qui effectivement, c'est tout à fait dans cet esprit. C'est avec Pierre Orsi, qui rachète en 1975 le Chateaubriand. Et Polo lui, alors je vous lis, hein, Polo lui demande comment il compte appeler son établissement. Bah, le Chateaubriand, répond benoîtement l'intéressé, donc Pierre Orsi. Et Polo de répondre, et pourquoi pas la glycine pendant 6 ans. Tu l'appelles Pierre Orsi, y compris ?
Voilà, c'est-à-dire qu'on met en avant
et il appellera
les cuisiniers.
Il l'appellera Pierre Orsi.
Vous êtes d'accord avec cette évolution des choses, ce statut sociologique du chef, Olivier Couvin,
bien
qui
sûr.
A été totalement métamorphosé ?
Monsieur Paul avait cette vision, mais pas uniquement pour la prestance du cuisinier et l'envie de le faire sortir. Sur beaucoup de choses, il avait cette vision de projeter son métier, dénigré autrefois. Moi-même, quand j'ai commencé la cuisine, c'était pas glorieux de faire cuisinier. Voilà, donc aujourd'hui
vous êtes des stars internationales.
Stars, non, et ce qui est important, c'est de garder les pieds sur terre et de pas oublier qu'on est dans un métier de service. Le plus important chez nous, c'est le bien-être de nos employés et surtout le bien-être de nos clients.
Et il a pu faire ça aussi parce qu'il était l'unique patron de la gastronomie française.
Voilà.
Et après son départ, il faut bien dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de patrons. Il y a des gens très importants, hein, évidemment, mais il y a surtout des seigneuries. On a des seigneuries, par exemple, les Hauts-Savoyards, les Bretons, les Trois Étoiles, voilà. Et il a pu faire ça parce que tout le monde le suivait.
Il a fédéré.
Voilà, il a fédéré.
On se quitte très bientôt, Gauthier Battistella. On est obligé d'évoquer, évidemment, le rapport de Paul Bocuse aux femmes parce que coureur de jupons, polygame, macho, beaucoup de choses ont été dites et écrites, souvent à juste titre, sur le rapport de Paul Bocuse aux femmes. Vous écrivez d'ailleurs, elles sont les grandes absentes de la geste bocusienne. Quoi qu'on en fasse, d'aussi près que l'on l'observe, d'aussi loin qu'elles se devinent, les muses demeurent tapies dans l'ombre. Ça, c'est quand même un sujet. Paul Bocuse et les femmes, on ne peut pas dire qu'il était d'un grand progressisme et d'une grande modernité.
Oui, c'est ce qu'on peut dire. On peut dire qu'il a été moderne sur tout, sauf sur ça. Et il a, en fait, il a fait son mea culpa, un petit peu extirpé. Ce sont des aveux qui ont été extirpés par Eve-Marie Zizalalu en 2008, où il disait « Je regrette tout le mal que j'ai pu leur faire. » Parce qu'il vivait concomitamment avec trois femmes. On n'en a pas du tout parlé, mais donc Raymond, la maman de Françoise, Ramon, la maman de Jérôme et Patricia. Voilà. Et c'est vrai que je pense que il a dû causer de la souffrance autour de lui, oui.
Merci beaucoup, Gauthier Battistella. Lisez Bocuse chez Grasset. Vous en serez vraiment beaucoup sur un personnage énorme. Encore une fois, vos plumes, vos anecdotes totalement inédites. C'est vraiment un
admirable livre. Franchement, je l'ai dévoré.
Indispensable pour tous ceux qui apprécient la gastronomie. Vous validez aussi cette lecture, hein, Olivier Couvin.
Mais je lui ai dit, j'avais l'impression de l'avoir à côté de moi quand je lisais le livre.
Merci beaucoup. La semaine prochaine, une émission sur les lasagnes. Histoire, recette autour de ce plat mondial avec Stéphane Solier et Alessandra Pierini. Envoyez-nous d'ores et déjà vos questions, remarques et recettes sur notre mail. On va déguster à radiofrance.com.